la peinture avec Vincent Beubert, notre invité de ce jour, qui nous fait le grand plaisir de venir nous voir avec Isabelle Raviolo.
Merci de m'avoir invité, Christine et Isabelle, merci.
Alors, on va tâcher de dire beaucoup de choses, même si Vincent est un petit peu à faune aujourd'hui et qu'Isabelle est en fin de course après un trimestre fatigant au lycée. Mais voilà, on va tâcher de rendre compte du très beau livre que Vincent a fait publier en 2021 aux éditions Elviso et qui s'intitule « Conversation avec Sam Safran, récit et souvenir d'une amitié ». Alors peut-être je vais commencer par présenter votre travail,
oui,
Vincent, vous
d'accord.
êtes d'accord?
Ah, bien sûr, bien sûr.
Je prends un petit peu la parole au début et puis je vous la donne rapidement. Alors Vincent, je me souviens très bien de la première fois où je suis venue dans votre atelier à Malakoff. C'était un week-end de novembre 2019 à l'invitation de Paul Roussy, qui n'est pas là mais qui nous écoute, qui est membre du collectif Dialogue, qui est poète, et qui nous avait donc amené à votre atelier. Et j'avais été très surprise, très heureuse aussi de vous entendre, très volubile, comme vous êtes souvent, parler de vos diptyques, de vos grands diptyques, de montagne en Allemagne, voilà, pour les badauds, pour les esthètes, les amateurs, ceux qui passent là. C'est-à-dire que vous aviez une grande simplicité d'accueil. Et voilà, ça m'avait beaucoup touchée. Et j'avais trouvé dans votre atelier quelque chose qui est propre à un certain esprit de village qu'on trouve sur le plateau de Vanves-Malakoff, Montrouge peut-être. Un esprit de village qu'on retrouve dans le livre de vos conversations, qui a vu se nouer cette relation avec Sam Safran dans des lieux communs. Et cet esprit de village tel qu'on ne le voit plus vraiment à Paris peut-être, hein, et que vous faites revivre, je trouve, très justement, très tendrement dans vos entretiens, dans cette vie de quartier, lorsque vous croquez dans ce livre tous les lieux familiers où l'on marche et où l'on pédale au quotidien. Donc ce plateau de Montrouge, Vanves-Malakoff, qui recèle beaucoup, beaucoup de surprises et qu'on retrouve vraiment dans vos croquis, que ce soit la place de l'insurrection de Vanves, mais aussi des cieux que vous laissez échapper, des vues sur Malakoff, les vues dans les troquets, ces univers urbains qu'on voit aussi à la fin de l'exposition Safran à l'Orangerie, dans les belles pièces de Safran.
C'est ces rues-là, c'est les mêmes rues.
Ce sont les mêmes rues, oui. Elles disent vraiment la poésie de la ville et la poésie de cette périphérie. Et il m'a semblé qu'on pouvait établir des correspondances entre celui que Jean-Claire appelle le gamin des Halles, hein, le Sam Safran, qui a trouvé refuge à Montparnasse dans les années 50-60 avec les immigrés allemands et espagnols, au Dôme, avec les Russes au Select, c'est une des choses que vous racontez aussi, puis dans différents bars, et auxquels répondent dans votre livre d'entretien beaucoup de bars qui sont croqués d'ailleurs au plein milieu du livre, le Tout va mieux et puis l'Hirondelle de Malakoff, c'est ça?
Oui. Oui, l'Hirondelle, tout à fait, la place de la mairie à Malakoff,
voilà.
Place du marché.
Oui. Donc moi, qui suis lectrice de Jacques Reda, j'ai retrouvé la même poésie que dans Hors les murs, en me promenant dans votre livre. Mmh. Et ça m'a beaucoup touchée de retrouver cette toponymie, cette topologie, ce relief du paysage de cette banlieue-là, qui dit peut-être toute une archéologie de la sensation de la ville, qui répond, alors vous nous en parlerez plus tard, j'espère, à votre sensation de la nature. Et donc, ce livre d'entretien, pardonnez-moi d'être longue.
Non, pas du tout.
Il est vraiment truffé de dessins préparatoires, de croquis de petite merde, comme vous le disiez, ouais. Safran.
Oui, c'est quand je lui écrivais ça. Parce qu'il parlait beaucoup, beaucoup. Il racontait souvent les mêmes anecdotes qui revenaient en boucle comme des paraboles. Il les variait un peu. Des fois, on en savait l'origine qui était préalablement pas expliquée. D'autres fois, il la poursuivait. On n'avait pas la fin, la finalité, une autre finalité. Donc bon, mais oui, tout à fait. Alors je lui écrivais pour essayer de lui répondre de temps en temps. Je me disais, il m'a dit ça quand même, il faudrait que je lui... comme j'avais envie de le laisser parler aussi pour l'entendre, pour apprendre de lui, pour avoir aussi des choses qui... Il m'a nourri aussi de plein de choses, de cette banlieue. Vous parlez de cette banlieue, c'est aussi celle des romans de Modiano, par exemple. Mais juste derrière chez Sam et moi, finalement, à Malakoff, il y a les endroits à Châtillon. On retrouve aussi les pavillons du 120 rue de la Gare, de Jacques Tardy. Donc il y a toute une filiation comme ça dans cette banlieue. Bon, alors il y avait des personnages plus effrayants qui étaient comme, par exemple, à Meudon, il y avait Céline, Louis-Ferdinand Céline, que Sam avait été voir parce qu'il adorait. Il avait croisé à Montparnasse Picus Crémaigne, compagnon de route de Soutine, qui lui avait dit « Comment, t'es pas au courant, antisémite notoire ?» Et Sam avait été le voir, il avait prétexté de faire dédicacer, il avait dit, il avait lancé à Louis-Ferdinand Céline, « Mais je suis juif, qu'est-ce que je vous ai fait ?» Donc, et ben, la femme l'avait viré, il était déjà très vieux. Mais c'était une écriture qui l'avait beaucoup marqué, et Sam, bien sûr, ne l'excusait pas, mais disait, il avait besoin de haïr pour écrire ce qu'il a écrit. Et on sent un peu toute cette banlieue dans cette littérature, mais aussi chez Jacques Tardy, aussi chez Modiano. Il y a une ambiance comme ça de l'Île-de-France qui touche Paris, qui touche aussi tous ces artistes qui étaient dans le 14e arrondissement. Le pauvre Seurat qui est mort, comme Isabelle et moi, peut-être, nous souffrons de grippe. Lui, il n'avait pas d'antibiotiques, très jeune. Villa Seurat qui était juste là, à côté de la Cité U. Il y avait beaucoup, beaucoup d'artistes. Et Montparnasse, comme vous dites,
oui,
il disait...
Oui, l'atelier de Chana Orloff à la Villa Seurat. Mais c'est tout à fait... C'est vraiment... très sensible dans votre livre et aussi dans La vie à l'atelier, je trouve cette correspondance entre la vie de village du 14e et de Paris ou du Paris idéal des années 50-60 et votre vie de quartier qu'on voit vraiment bien dans la fin de l'exposition Safran et puis dans dans ce carnet de livres. Alors je sais que vous avez très envie de parler de Sam Safran pour le rendre hommage à votre
comme je suis un peu aphone aujourd'hui parce qu'on a attrapé des rhumes, je suis content aussi de vous écouter et puis ça fait revenir aussi des images. Comme je vous ai dit, je n'ai pas préparé, je me suis dit une conversation spontanée c'est ce qu'il faut pour bien parler de Sam, puisque c'était dans les bistrots, vous dites les lieux familiers, c'est vrai, la boulangerie, mais les cafés parisiens, les cafés de Degas qu'il aimait énormément, les cafés de Manet aussi avec la jeune fille à la poire, souvent quand on échangeait comme on est en train de le faire là, en arrière-plan, il y avait quelqu'un de seul, et puis je lui donnais un coup de coude, je disais, tu connais ça là ou tu connais celui-ci? Ah, lui, oui, c'est à lui, il a une grave dépression en ce moment. Elle, surtout, t'as coquine pas avec elle, donc voilà, donc on avait...
Oui, il y a quelques anecdotes assez truculentes, dans le livre, et coquine, notamment sur les jeunes filles, les serveuses, et je veux parler de ce tête-à-tête entre hommes qui parfois, enfin, qui souvent est très très drôle d'ailleurs. Donc si je reviens sur ce tête-à-tête cocasse, grossier, souvent, je me permets de dire que souvent vous êtes grossier aussi avec Sam Safran.
Ouais. Jamais vulgaire. Sam aimait bien la grossièreté, la gouaille parisienne. Il y avait un type qui lui avait jeté son scooter comme ça et lui avait dit mais alors il s'insultait, connard. Alors comme la gouaille parisienne, et l'autre répond va donc ouvrier, parce que Sam était un jeune peintre à ce moment-là, à la trentaine, plein de taches de peinture. Et l'autre a pensé qu'il était ouvrier, puis c'était une insulte. À l'époque, c'était les milieux sociaux comme ça, c'était plus méchant, plus franchement méchant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui sur ça. Alors va donc ouvrier. Alors Sam lui avait dit ouvrier, mais spécialisé, connard.
C'est très drôle.
Oui. Donc c'est Sam était jamais vulgaire. Vulgaire, c'est-à-dire ordinaire. Non. Il était. Mais c'est vrai que la grossièreté pouvait de temps en temps. Mais c'était toujours une grossièreté. Vous voyez quand par exemple il a pris son dentier pour croquer les fesses d'une fille au café.
Voilà.
Mais c'est une fois, il a fait ça.
Oui,
mais je l'ai jamais vu faire avoir un geste déplacé. Il y savait respecter. Ça, il n'était pas. C'était juste pour piquer un peu comme ça. Et la fille se retourne et dit vous comprenez, je ne bande plus. J'ai 80 ans. Mais ça, c'est Topor aurait pu faire ça dans un dessin. Et ils étaient très amis, lui et Topor. aéroport. Il est d'ailleurs enterré juste derrière mon atelier à Malakoff, à côté de Barbara aussi, la station de métro Barbara à Montrouge, au cimetière de Bagneux, juste à côté du papa de Roland Topor. Donc ils sont à côté. Voilà, donc.
Merci, merci de revenir sur toutes ces anecdotes de vos entretiens qui sont vraiment... Oui, c'est un livre très intime et très drôle. Enfin, c'est vrai qu'on rit beaucoup tout de même. Et on a l'impression d'être dans la table à côté et d'écouter vos facéties, c'est vraiment bon. Et donc votre livre parle vrai de manière très concrète. Il donne vraiment à entendre le ton et l'humour de Safran. Et il permet, me semble-t-il, et en vous invitant, on a eu quelques échanges et vous attendiez à parler beaucoup de l'exposition qui lui est consacrée jusqu'au 15 janvier.
Très belle.
Très belle exposition, bien sûr. Magnifique. On en reparlera un petit peu, mais
clair, c'est Julia Drost, la commissaire.
Oui.
Je la croisais très souvent chez Sam Safran. Oui. Souvent, Sam partait soit pisser un coup en haut, en bas, chez lui, soit au bistrot, puis on échangeait un peu. Il y a une grande clarté, je trouve, dans la première série des Fusains, après La Couleur, et c'est un petit joyau. Je disais à Nicolas Neumann, qui est un des tout premiers à avoir lu mon texte, parce que je m'étais enfermé 2 mois pour l'écrire. J'arrivais plus trop à peindre. Un ami m'avait dit, j'ai lu ton rapport en ligne sur le séjour que j'avais fait en Bavière, payé par le CNAP, le Centre National d'Art Plastique. Et il avait dit, t'as une bonne plume, si t'arrives pas à peindre, crise un peu, crise de peintre, un peu existentielle, qu'est-ce que je peins, comment Alors j'ai dit, maintenant, ça fait 6 ans que je vois Sam 3 fois par semaine, on bouffe ensemble tous les midis, on sort de mon atelier, je vais le voir, allez, ça me débordait. Mais même quand je l'ai rencontré, la mère de mes enfants, elle me disait, on va manger quelque part, je me rapprochais imperceptiblement toujours du bistrot où on se rejoint avec... Alors elle me dit, mais... T'es tombé amoureux d'un homme de 80 ans, en fait, c'est ça. C'est bon. Donc, du coup, voilà, j'ai un peu perdu le fil.
Mais... Oui, mais c'était ce qu'on avait envie de vous entendre dire. Tu es tombé amoureux d'un homme de plus de 80 ans. Et on aimerait mieux comprendre ce rapport qui est... pas tout à fait un rapport de maître à élève. Alors bien sûr,
il n'aurait jamais toléré. Lui, oui. Que je dise que si j'étais, il n'aurait jamais toléré.
Il se disait ni Dieu ni maître.
Ni Dieu ni maître, anarchiste, tout à fait. Bon après, avec Giacometti, il l'avait dit ça. Il avait dit, vous êtes mon maître, Diego. Là, je ne suis le maître de personne. Et Sam l'avait dit, ce qui est très vrai. Là, on voit qui descend aussi certainement des rabbins. Il avait un grand-père qui était rabbin. Il lui a répondu ça, que c'est dans l'enseignement traditionnel qui nous vient des Grecs aussi, d'un temps beaucoup plus reculé. Il avait dit, mais vous vous trompez sur ce point, Diego, parce que c'est l'élève qui reconnaît son maître. Il y a une forme de reconnaissance comme ça, et c'est pas l'inverse, quoi. Et je pense que ça, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui éclatait les murs. Vous parliez tout à l'heure en dehors des murs. Quelque chose qui éclate aussi le temps, à la fois dans sa peinture, je crois aussi dans ma peinture. Je pourrais pas dire, je sais pas si c'est toutes les peintures. Lui, il était attaché à Paris. Il m'a dit, Richard Lindner, il était attaché à New York. Ils étaient amis parce qu'ils étaient à la même galerie chez Claude Bernard, qui vient de décéder d'ailleurs, grande galerie, magnifique, où j'aurais rêvé d'être en plus. Comme, bon.
Il y en aura d'autres.
Voilà, bon, alors en tout cas, lui, c'était Paris. Voilà, c'était Paris. Donc il était à Malakoff, mais on sent quand même qu'il y a un éclatement des murs. Les serres comme ça, c'est des vestiges aussi de l'Australie où il était. Et moi, je pensais à notre conversation qu'on aurait aujourd'hui, hier, dans mon atelier. Je voyais tous mes arbres où vous êtes venus, mes tableaux de nature. Hein, ce qu'il disait, toi, Vincent, tu es un rat des champs, c'est la nature. Et je pensais aussi à Agnès Calu, qui est une historienne qui a écrit un livre sur moi chez Jacques-André Éditeur, dans le silence
beau,
de l'atelier.
Oui.
Et elle dit, comme ça, les murs n'existent plus avec Vincent. Je ressentais aussi ça avec Sam, mais ça passait pas par la grande nature, le grand souffle de la nature. Moi, c'est le vent, les éléments qui passent au-dessus de Paris, qui rejoignent la Bretagne à l'ouest, les Alpes plus loin. Mais chez Sam, c'était le temps aussi. Il y avait quelque chose dans notre relation. Il avait été à la Grande Chaumière, j'y avais été aussi. Enfin, j'y étais aussi allé. Il y avait quelque chose comme ça où je me reconnaissais aussi. Je reconnaissais quelque chose que j'avais vécu dans ce qu'il a vécu. Alors, c'était beaucoup plus tragique chez lui. Et souvent, vous disiez, le livre est drôle. Mais j'espère aussi qu'on sent que des fois, il y a une profondeur, une gravité. Moi, Safran, il mettait les larmes aux yeux. On discutait, il me parlait de son enfance, de son enfant handicapé, avec Lilette, sa femme, qui l'a tellement aidé et qui est une super...
En effet, dame, mais, oui, en effet, on en parlera, j'espère, à la fin, plus qu'une gravité, oui, une très grande profondeur dans le partage aussi de la vie familiale et de la vie avec leur enfant Sébastien, oui. Tout ce dont vous vous rendez compte qui est extrêmement, oui, qui rencontre de la très belle vulnérabilité. Et je reparlerai très précisément peut-être d'un de vos dessins du visage dessiné par votre fille et complété par Safran qui ouvre votre livre et qui m'émeut beaucoup. Mmh. Mais on ne va pas tout divulguer tout de suite parce que très vite, vous dites beaucoup de choses. Donc, pour synthétiser, bien sûr, votre tête-à-tête était, comme le dit Nietzsche dans Humain, trop humain, la conversation parfaite, et ce livre en témoigne, parce que justement, il rend compte d'un dialogue véritable entre vous, et je dirais entre pairs, il n'est pas le seul, ce dialogue, vous rendez aussi hommage au travail de Julia Drost, et Jean-Claire aussi, le critique d'art, a écrit un très très beau livre aussi de conversation, qui rend compte de ses entretiens radiophoniques aussi.
Il y a Alain Weinstein
et
aussi.
Alain Weinstein.
Jean-Claire vient d'en sortir, le gamin d'Alain que vous avez cité, et Alain Weinstein,
oui, c'est très
aussi,
beau.
Aussi par le livre d'Alain Weinstein, au départ, que j'ai appris tout bêtement, je connaissais l'œuvre de Sam, je suis fils de peintre, j'allais chez Claude Bernard, j'avais déjà 15 ans, voir les expositions, ma mère avait des amis, donc je connaissais son œuvre, mais je n'avais pas compris qu'il était à Malakoff, et en fait, on était à moins d'un kilomètre, et c'est par le livre d'Alain Weinstein que mon beau-père m'a offert, Bernard m'a dit, tiens, lis ça, il était aussi... Il avait un premier beau-frère qui était ami avec Safran, donc il a vu ce livre, il l'a acheté, il a dit, ça te plairait beaucoup, une parole comme ça, très... J'ai adoré les entretiens avec Weinstein. J'ai dit, il faut que j'aille poursuivre la conversation avec lui. Puis j'ai écrit une lettre et il répond jamais, mais il a dit c'était authentique. J'ai dit.
Alors, et c'est comme ça que ça a commencé.
Eh bien, au début.
La correspondance.
Au début, il a rappelé, il ne fait jamais. Et puis il a dit. Après, j'ai eu sa femme au téléphone, il a dit que vous passiez le voir au bistrot. Et j'ai tenté plusieurs fois ma chance avant de le voir un matin là, au petit hiver, un février comme ça, très froid. J'ai dit, allez, j'y vais. Puis, tout de suite, il m'a mis à l'aise, excessivement à l'aise. Et, voilà.
Et c'était parti. Alors, en deuxième temps de l'émission, Isabelle, on va, toi qui es peintre, parler des... peut-être des conseils que vous pourriez donner à un jeune peintre à partir de tous les conseils que Sam Safran vous donne. Parce que ce livre est très riche de paroles, comme vous l'avez dit, de paraboles un peu d'un sadique, hein, un vieux sage. Je me souviens quand vous aviez dédicacé votre livre, moi je vous avais rencontré l'année dernière à la librairie Chante-Livre à ici les Moulineaux.
L'invitation de Lisa Léon qui
tient
à
aller voir. C'est ça.
C'était très chouette de me rappeler.
Et puis je me souviens très bien que vous aviez dit après, mais vous trouvez pas ça trop bavard, un peu trop intello, mon bouquin. Voilà, c'est ce que vous m'aviez dit à l'époque. Et. Comme peut-être s'il s'agissait de dire que partager la peinture, c'est autre chose que de partager un savoir et une culture. Il me semble que c'est la force de votre livre aussi, que c'est un entretien entre pairs. Mmh. Et donc que le partage, effectivement, de cette vie très concrète...
C'est la vie de peintre. L'objet, c'est la vie de peintre. Et c'est dédié au peintre. Je voulais le mettre au peintre. Et puis, en fait, Nicolas Neumann, qui un des tout premiers avec Yves Michaud à avoir lu ce texte et l'avoir aimé et défendu, m'a dit mais c'est tout le livre est une dédicace au peintre. Et c'est pour les peintres qu'il est écrit. Donc,
c'est cela.
Et lui, Neumann, il a eu cette intelligence, on a discuté hier, de ne pas vouloir couper le texte. Parce qu'il y a tout. Moi, je demande aussi par là pardon à tous ceux que j'affiche, parce qu'il y a des potins que je sors.
Oui.
Certains, Sam m'avait dit ça, ne le dis pas, tu vas t'attirer des ennuis. Donc, je ne l'ai pas dit, mais trop quatre.
Il l'a lu, lui aussi.
Non, il ne l'a pas lu, mais on en a parlé. Ah, oui. Et même au début, je voulais appeler ça au bistrot avec Sam Safran. Et ça devait être en avril que j'avais fini. Et il m'avait dit non, mais pas ça.
En 2019.
Oui, mais lui, il est décédé le 14 septembre 2019. Et en avril de ce 2019, j'en ai parlé avec lui, il était fini. Je lui ai dit, il m'a dit non, mais pas au bistrot. Ça, il ne faut pas un titre qui rabaisse comme ça, même si on se voit au bistrot aussi. Et du coup, j'avais raconté certaines choses. Il m'a dit, t'as bien fait de dire ça. Et je lui ai dit, il m'a dit, ça, j'ai pas dit. Il m'a dit, ça, c'est très bien de ne pas l'avoir dit.
Bien, il vous a, il vous a adoubé. Non, c'est très bon. On sent effectivement beaucoup de connivence et de respect. Et peut-être justement pour revenir à ce que vous mentionnez dans le livre et que vous avez énoncé au début, cette amitié entre le rat des villes et le rat des champs, on va l'illustrer par une certaine définition que vous donnez de votre peinture, une peinture épique, dites-vous. Nous écoutons, nous venons d'écouter à l'invitation de Vincent Beubert, le concerto en ré mineur de Brahms, numéro 1, avec Hélène Grimaud au piano. Mais on n'a pas eu le temps d'entendre le piano, vous l'écouterez par vous-même.
C'est dommage.
Vincent, donc je vais vous posez quelques questions sur la résistance et la transmission en peinture. Peut-être en repartant de tous les conseils que vous donne Sam Safran. Il me semble que vous craignez une peinture qui serait trop savante. Sam Safran vous dit que vous êtes meilleur épistolier que peintre.
Non,
pour vous charrier.
Des fois, il faisait des beaux compliments aussi. Ça, et des fois, des critiques.
Donc j'avais peut-être des questions à vous poser sur les conseils qu'il vous a donnés. Alors, vous avez mentionné la famille des artistes avec lesquels il vivait. Il y en a un qui m'a touchée. Il disait parmi tous ses conseils que la seule chose qu'il ait retenue de son judaïsme, c'était résister face au désespoir, tenir comme un Masada. Alors, on va oser la question directe, Vincent. Qu'est-ce que résister dans la peinture aujourd'hui et à quoi résister?
C'est marrant que vous posiez cette question. Quand j'ai exposé là, justement, en Bavière, parce qu'à la fin de ma résidence payée par le CNAP, bon, moi, l'Allemagne, je ne courais pas après, mais tous mes contemporains, ma génération, parce que ça compte pour moi aussi, ça, est parti faire des échanges avec les Beaux-Arts à Leipzig, tout ça. Et au bout d'un moment, moi, j'ai compris qu'aucune n'était tout à fait pour mon pied, parce que j'étais un peu atypique, j'étais contemporain tout en étant encore moderne, avec Soutine, avec des gens comme ça. Donc, au bout d'un moment, le CNAP m'a dit, mais vous pouvez faire vous-même votre projet. Donc, j'ai dit, mais j'ai envie d'aller voir un peu en Allemagne, la grande peinture, la puissance. Mais j'ai envie... Alors, j'ai été dans les fermes, dans des fermes de côté plus rural, en Bavière, et j'ai demandé des aides pour payer les fermiers, rester chez eux, et aller dans les champs, et connaître ce monde plus rural, quoi. Et le peindre. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? J'ai perdu encore le fil.
Il s'agit de résister
par la peinture. Ah oui, Widerstein. C'est ça, Widerstein. En fait,
en Allemagne.
Au bout de trois étés de suite, j'ai même peint les vaches là-bas. C'était une période de... On va dire, c'était la période où on avait beaucoup de correspondance avec ça. Il écrivait pratiquement jamais. Mais il répondait à ce que je disais. Au bistrot, il a fait des dessins sur la table de comment positionner la vache et tout.
C'est génial, ça.
Et aussi, j'avais... j'ai pensé à sa peinture, à Audistance, parce qu'il faut aussi dire une chose, c'est que dans le livre, vous voyez, je fais beaucoup de bifurcations, mais je pense que l'auditeur peut s'y retrouver, comme vous vous êtes retrouvé dans le livre, au fond. J'aime jamais prendre les choses de façon trop simple. Dès qu'il y a une planète devant nous, la planète Sam, il y en a une autre qui est beaucoup plus lointaine, comme un satellite. Et il y a Olane aussi dans ce livre, Alexandre Olane, qui a une très très grande importance pour moi, dont ma démarche et la sienne, se confondent, mais sont beaucoup plus proches, beaucoup plus comme la Terre et la Lune. Sam me touchait par la part, là où je me sentais frère de Sam, c'est le côté l'enfant qui, au fond de chaque peintre, chaque vrai peintre, aime dessiner, il aime ça. Vous voyez, souvent les gens me disent « Ah, oh, mais toi, t'es content. » Mais je ne boude pas mes contemporains. Il y a plein de choses que j'aime. L'art conceptuel, il y a des choses que j'aime. Robert Filliou qui dit « L'art, c'est ce qui fait qu'on préfère la vie à l'art. » C'est tout à fait juste. C'est ça, c'est cette excroissance de vie qu'il y a dans Rubens qui fait qu'à l'époque de Rubens, celui qui est le meilleur et qui a plus de vie, plus de feu, c'est Rubens. Bon, eh bien, ça, si vous voulez, je crois que... J'ai encore perdu le fil, c'est pas de bol. Attendez, alors... Rubens, ouais. Je pense que là, il y a quelque chose avec Sam on aimait dessiner à la base. On aimait ça, mais peindre, dessiner, c'est de reprendre. Même si personne n'était là pour applaudir, ni recevoir, et chez mes contemporains, des fois, je ne sens pas ça. Je vois trop de photos, quoi. Mais je ne veux pas dénigrer parce que j'aime beaucoup Gilles Ayot, par exemple, qui n'est pas un contemporain. Encore que son fils est contemporain, c'est pas mal du tout aussi. Mais il y a d'après photo, Sam aussi travaillait d'après photo. Il m'a dit, tu dois pas avoir des jugements comme ça. Je lui ai dit, c'est vrai. Et au fond, il y a ce plaisir de dessiner, cet émerveillement d'essayer de ce défi qui est jusqu'où je vais pouvoir aller. Un peu comme un joueur d'échecs, vous voyez. Pour moi, un vrai peintre, c'est quelqu'un qui...
Oui, vous les dessinez, les joueurs d'échecs.
Oui, tout à fait.
Vous y jouez vous-même, du reste.
Oui, très mal, mais un peu n'importe comment. Je joue la Scandinave et je perds à chaque fois, mais c'est pas... Donc, il y a... Mais pour répondre avec Olane, il y a cette proximité comme ça de partir, de brasser l'épique. Vous parliez de l'épique, Brahms. Quand j'écoutais beaucoup ce concerto au printemps, j'étais dans les Alpes et j'essayais de peindre tout. Vous voyez, c'était... quand je dis peindre tout, c'était peindre la roche, la montagne, les grandes forces de la nature, ne me limiter à aucun sujet. Si je voyais une silhouette, essayer de la représenter. Enfin, voilà.
Oui.
Et c'est vrai que quand on vous écoute, Vincent, on pense à ce très beau texte de Maurice Merleau-Ponty qui s'intitule « L'œil et l'esprit » où il parle de Cézanne qui peint la montagne Saint-Victoire.
Oui, magnifique texte.
Et ce très beau texte évoque ce rapport du peintre à la montagne, à la roche dure au-dessus d'Aix, comme le dit Merleau-Ponty, et il l'envisage, au fond, comme un combat. Une lutte de Jacob avec l'ange, en quelque sorte.
Tout à fait. Oui, c'est ça. Widerstein, c'est ça. C'est qu'on avait dit ça avec les Allemands, avec qui on parlait peinture. Finalement, résister en allemand, Widerstein, c'est se dresser. Donc, Stern, c'est comme il y avait une montagne là-bas, c'est le Herzogstein que je peignais, le duc qui se dresse. Il y a quelque chose. Stern, c'est vraiment, il se dresse. Et Wider, c'est en retour. C'est-à-dire, résister, c'est se dresser soi-même. Donc, En retour à peut-être le vent, peut-être la bourrasque, quelque chose qui veut faire... Bon, plier, il faut plier de toute façon, sinon on rompt. Mais,
Oui, c'est très intéressant la façon que vous avez de décrire la juste position par rapport à la montagne pour qu'elle ne nous engloutisse pas, qu'elle soit à la bonne distance. Et on reviendra peut-être un peu plus tard sur les trois conseils, les trois cadeaux, la générosité de Sam à votre égard lorsque vous allez ensemble à la librairie Chan et qu'il vous
offre... Fabuleuse. Comment. Il me montrait tous les endroits où il avait, pour le dire vulgairement, presque fait pipi, quoi. Il avait presque dit, là, j'avais gamin, tu vois, il y avait l'entrée des catacombes, mais ils ont fermé la porte entre chez Adam et le cimetière Montparnasse. Il y a une entrée des catacombes, là. Et voilà.
Et il vous offre un petit livre qui m'est très très cher, de Delacroix, puisque c'est livre de croquis, de la vallée d'Ossau. C'est pas n'importe quelle Pyrénée, c'est même celle où j'ai grandi. Donc, et qui permet de faire entrer la montagne dans la peinture de Delacroix et qu'on retrouve aussi à la chapelle... à Saint-Sulpice, la chapelle des anges à Saint-Sulpice. Donc peut-être que vous nous en parlerez un petit peu, mais moi je veux faire un petit retour parce que vous les avez mentionnés trop rapidement. Il s'agit de vos vaches, Vincent.
Ah oui, les vaches.
Les, les mamelles du ciel, comme les appelle Nietzsche dans Ecce Homo, dans ses poèmes d'Ecce Homo. Et peut-être qu'on va vous faire écouter un petit peu de poésie pyrénéenne, précisément, d'une poète qui s'appelle Monique Larouture-Poitou, qui elle-même a une très belle amitié pour les vaches, que je vous dirai tout à l'heure. Et on écoute un petit peu ces poèmes qui ont été mis en musique par son mari.
Les pas martèlent au sol le rythme du présent, sans toucher pour autant à la vie souterraine. À chacun son côté du monde. Je n'habite que celui d'en haut, celui de l'air. Et le ver, aide-moi à respirer. Aide-moi à me passer des mots pour avancer. Une bonne partie du passé, trop lourde à porter, est restée en bas, mais quelques pensées d'avenir plus légères subsistent. En désordre, elles flottent en avant. Je les laisse faire leur chemin et me revenir rafraîchie. Dire le temps en retient. Le terre le dilue. Comment c'était déjà avant? On dirait que ça recommence. Je sais où je vais. J'en pressens l'image. Même les yeux baissés.
Voilà quelques textes de Monique Larouture dans son recueil En montant, en descendant, qui se présente, c'est très beau, sur un papier Bible et dont on ne peut lire le texte que par transparence, donc, qui permet de prendre son temps aussi à la lecture pour faire émerger du sens. Alors ce petit détour, Vincent, parce que Monique Larouture a un très beau texte sur les vaches, précisément, que je ne retrouve plus dans mes papiers et que j'aurais aimé vous lire. Mais simplement ce détour pour vous demander votre rapport à la poésie. Et je me souviens très bien que Sam Safran regrette que les jeunes poètes ou que les poètes modernes en lisent trop peu.
C'est vrai. En plus, c'est par Paul, un cousin par alliance, on peut le dire comme ça, qu'on nous sommes connus, qui est poète aussi, que je salue au passage. Et la poésie... Ah, la poésie
La poésie.
Et on dirait Léo Ferré, que Sam aimait beaucoup. C'est le premier concert où il a emmené Lilette, tout à fait, sa femme. Il aimait énormément Léo Ferré. Je pensais à la chanson, elle est là pour personne, elle n'aime pas qu'on la sonne, c'était pas une domestique... Donc, le rapport à la poésie. Écoutez, en fait, moi, le rapport à la poésie, il est curieux. Il est curieux. Vous voyez, par exemple, quand j'avais peut-être... j'étais au Beaux-Arts de Versailles, je me rappelle, j'ai commencé à apprendre à conduire. Et les premières fois où je me suis trouvé dans les embouteillages, j'étais un peu paniqué. Paradoxalement, c'est là où on était à l'arrêt que ça me paniquait. J'étais coincé. Et ça m'est arrivé de réciter le poème Sensation de Rimbaud par cœur. Vous voyez, c'est une espèce, c'était pour moi comme une. Le poème était pour moi comme une espèce de prière païenne, un peu sauvage, où quand on l'avait prononcé, il devait y avoir une forme de silence, ou d'épiphanie, quelque chose, ou peut-être un sentiment océanique, ou quelque chose qui ouvrait sur le temps, qui a invoqué quelque chose. Alors, Olane, qui est très mystique à sa façon, Alexandre Olane, qui est mon autre mentor, on peut le dire comme ça, et mon grand ami, et mon parrain, quelque part aussi, dans le cœur, dans l'art. Et lui, il appelle ça un ange, par exemple, mais on peut appeler ça... Bon, toujours est-il que ce moment un peu de rencontre avec le monde, comme s'il se rapprochait, de tendresse, je l'appelais souvent l'expérience de la déchirure. Et c'était dans un tableau de Corot, dans un tableau de Claude Lelorrain, que Alexandre Olane aimait beaucoup, Sam aimait beaucoup aussi Corot, par exemple.
Vous aussi, vous parlez
j'adore Corot, oui. J'adore. Souvent, je déjeunais dernièrement, c'était pas un déjeuner, c'était plutôt un goûter, avec le peintre Ronan Barrault, que je salue aussi, qui est très sympathique, et dont j'aime beaucoup la peinture, un de mes contemporains dont j'aime beaucoup la peinture. On disait que Le... Moi, j'ai encore perdu le fil, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'étais en train de dire juste avant le... Parce que je... ça part en arbre, comme ça.
Oui, les mais c'est pas grave, vous parliez de la poésie.
Ah oui.
Et du rapport entre poésie et peinture.
Oui.
Et vous faisiez écho à Corot.
Oui,
et à la lumière.
Voilà, c'est exact. Merci. Merci, merci Isabelle, vous m'avez beaucoup aidé.
Pardon, excusez-moi.
Attendez, prenez, prenez, il y a une cuillère.
Non, non, mais j'ai... Et cuillère, et...
Voilà. Mais toujours est-il que Barrault lui aime beaucoup Courbet, et bien sûr qu'il compte énormément pour moi, mais c'est, finalement c'est plus chez Corot que je comprends un peu cette chose du monde, cette chose que de la poésie, cette rencontre avec le monde et la poésie. Pendant des années, j'ai été et là en ce sens très proche. Vous voyez, on a tout un groupe, par exemple avec Olan, on est 3-4, on va bientôt exposer à Meudon, à la Maison de la Parole.
Quand alors allez-vous exposer
avec
Alexandre Olan?
Entre fin janvier et avril. Ça va être assez longue durée, avec trois élèves de Olan, Jean-Baptiste Ney, Mathieu Wurman et moi-même. Mais élève n'est pas le bon mot, on est d'accord. Et l'un d'entre eux parlait de Merleau-Ponty, justement, comme titre, le dedans du dehors. Et il cite cette phrase où Merleau-Ponty cite lui-même dans L'œil et l'esprit Giacometti, qui dit la ressemblance avec l'extérieur, cette vision finalement de l'extérieur qu'il y a chez Olan intériorisée. Et c'est valable pour tous les peintres. Au fond, l'expo de Sam, que Julia Drost appelle l'obsession d'un peintre, c'est quelque chose qu'il a... Et là, avec Sam, on se rejoignait là, ce qui rejoint tous les peintres. Non seulement, enfant, on aimait dessiner, on avait cette fascination parce qu'on était seul, parce que c'est une façon qui... Quelque chose comme ça. Et en même temps, il y a un jour où il y a quelque chose dans le réel, dans le visible, dans l'expérience visible, que je relie à la poésie, qui est pour nous, qui est pour nous. Alors... En tout cas, Sam, quand il m'en avait parlé plusieurs fois, mais il était bien éméché parce qu'il aimait bien le vin rouge. Il me prenait dans la rue, il me disait « Regarde !» On s'arrêtait. « Tu vois la géométrie de l'ombre avec la lumière, le soleil, les toits de Paris, c'est toute la poésie de Paris. » Il m'avait parlé d'une autre expérience qu'il avait eue dans les escaliers la nuit, comme ça, où l'ombre portait, il ne trouvait pas, il était paumé. Et une épiphanie, c'est « Ah, c'est tout simple, dans les escaliers, l'ombre portait de la lune, comme ça. » Donc il prenait un croquis... Et juste, il faisait trois créés de... Et puis, en fait, c'était ça. C'est pas grand-chose. Mais comme je dis souvent, à, entre guillemets, mes élèves à moi, parce que j'ai aussi l'âge d'être un maître.
Oui, mais il s'agit de transmettre, bien sûr.
Voilà, à Meudon, je donne des cours à l'Académie d'art. Enfin, donne des cours. On partage, ils m'apprennent aussi beaucoup. Et je dis, mais il y a des vérités dans l'art, comme chez Aurélie Nemours, la structure du silence. Vous voyez, par exemple, ces formes géométriques, comme ça, noir sur blanc, peint très finement, comme ça. Mais on ne voit pas l'intérêt tant qu'on n'est pas rentré dedans. Il faut la vivre comme une expérience de l'intérieur, ce qu'elle, elle fait, parce que c'est ça qui est pour elle. C'est la forme géométrique qu'elle a dû voir la nuit. Vous savez, quand on a un peu de fièvre, justement, on est malade, Isabelle, vous et moi. Donc, on a un peu de fièvre, on est là, on cogite, puis on voit la lune qui par la fenêtre, et on voit une forme, et le silence a une épaisseur, comme ça. À ces moments-là, on pourrait écrire le nuage, la fumée qui sort du toit ou du bec de gaz vers les niens, et forme la forme d'un cinq. Vous voyez, on pourrait écrire ces choses-là, parce que les images viennent, et c'est ça, la poésie, c'est tout d'un coup... Il y a un contact entre le monde et nous, et il vient comme un gros chat. Et on a l'impression, on ne sait pas si c'est le bon Dieu, si c'est une présence, comme disait Yves Bonnefoy, mais il y a quelque chose qui vient auprès de nous, et puis c'est ça qui nous nourrit, qui nous donne notre monde poétique. Après, il y a le métier. Sam avait énormément de métiers, et chacun son métier. Il y a des peintres qui n'ont pas beaucoup de métiers. Une fois, j'ai rigolé. Dans la même galerie qu'Alexandre, il y a un peintre du même âge qui est très très fort. Et j'avais dit, mais à la mère de mes enfants, j'avais dit, mais alors, tu vois, moi j'aurais eu besoin, je galère, comme ça, j'aurais eu besoin d'un maître comme ça qui soit fort, qui sache des trucs, le pastel, le fusain. Et elle me dit, bah, t'as Alexandre Olan. Bon, elle aurait pu mentionner ça, mais je connaissais déjà ça. Mais elle a demandé, t'as Alexandre, c'est ton maître quand même. J'ai dit, oui, mais Alexandre, il est grand sans être fort.
Oui.
Vous voyez, le métier. Et alors elle dit, bah, et lui, j'ai dit, bah, il est fort sans être grand. Et bon, bah, voilà, ça fait toujours un peu plaisir de
mais,
dire du mal.
Mais c'est drôle que vous parliez d'Alexandre parce que je le connais bien.
Mmh.
Et je l'ai par deux fois publié dans la revue que j'ai dirigée, la revue Thomas.
Mmh.
Et pour être allé plusieurs fois dans son atelier, un jour il m'a parlé de cette poésie.
Mmh.
Et il rattachait l'écriture d'Yves Bonnefoy. À la peinture de Morandi.
Tout à fait.
Et il me disait, et c'était l'époque de la grande exposition Morandi au Metropolitan Museum of Art à New York, que cette peinture de Morandi était la beauté pure parce que la plus simple. Comme l'écriture d'Yves Bonnefoy, et je pense à son dernier livre, L'écharpe rouge. Mais pas seulement les planches courbes, j'aime beaucoup ce recueil aussi.
Ouais. J'avoue que Yves Bonnefoy a été très important pour moi aussi. Je l'ai découvert séparément d'Alexandre Olane. Dévotion, moi j'ai dévoré le livre à l'improbable et au tressé. Je le connaissais par cœur. Je crois que j'ai recopié un tiers du livre parce que je découvrais Bonnefoy. Et je pense que dans Remarques sur le regard, il part des jeunes peintres qu'il côtoie. Et il dit, il me répète sans arrêt, ces peintres qu'il estime, que Morandi et Giacometti sont deux repères pour eux très très forts et que ça compte beaucoup. Mais c'est vrai qu'Olane se réclame de Morandi, il dit c'était mon maître.
Dites-moi, poète, il serait temps d'écouter la suggestion musicale, peut-être de Léo Ferré. On vous demande vos papiers tout à l'heure. Ouais.
Bipède volupteur de lyre, époux châtré de polymnie, férolé de lune à confire, grand-duc bouillon des librairies, maroufle, appendre à l'hexamètre, voyou décliné chez les Grecs, albatros à chaîne et à guêtre, cigale qui claque du bec, poète, vos papiers, poète, vos papiers. Je bu du Waterman, je bouffé litré, et je repousse du goulot de la syntaxe à faire se pâmer les précieuses à l'arrêt. La phrase m'a poussé au ventre comme un ox. J'ai fait un bail de 3-6-9 aux adjectifs qui viennent se dorer le mou à ma lanterne, et j'ai joué au casino les subjonctifs, la chemise à Claudel et les condits modernes. Syndiqué de la solitude, museau qui dévore clic-quic, sédentaire des longitudes, phosphaté des dieux, chair à flic, colis en souffrance à la veine, remords de la Légion d'honneur, tumeur de la fonction urbaine, Don Quichotte du crève-cœur, poète, vos papiers.
Poète, vos papiers. Alors, on quitte la poésie de Bonnefoy, vos échanges très savants, Isabelle et Vincent, et on va passer au cinéma que vous faites avec Sam Safran, aux émotions que vous partagez au travers du cinéma. Et vous croquez même dans votre livre, me semble-t-il, une capture d'écran de western, ou je ne sais pas comment vous
du
avez...
bon Sergio Leone, oui. Bon, La Brute et le Truand.
C'est ça.
Mais Sam aimait beaucoup les westerns. Celui-là, il ne m'en parlait pas trop en particulier, mais souvent, quand il disait Masada, il disait aussi c'est Fort Alamo, vous savez, là,
exactement,
avec John
oui.
Wayne, là, ils sont bloqués là-haut. Là.
Et alors, j'aurais aimé comprendre un petit peu, parce que, bien sûr, le livre est plein de références cinématographiques, comprendre ce que nourrit le cinéma chez vous. Donc, à la fois dans votre amitié, on sait que pour Safran, qui était autodidacte et qui a grandi vraiment avec la cinémathèque rue d'Ulm, le cinéma a beaucoup compté pour explorer la sensation du vertige dans les escaliers, donc pour déconstruire les idées de la perspective.
Le côté séquentiel aussi, ce que disait là, on écoutait ensemble Jean-Claire et Drost, là, avec Finkielkraut, avec Alain Finkielkraut, il disait, bon, c'est séquentiel, c'est vrai. Sam, il me disait, c'est pour moi le problème de la série des peintres, les Nymphéas de Monet, c'était réglé la série, puisque je faisais la même imprimerie Bellini, mais vue à travers... Et toujours des points de vue, je l'explique dans le livre, inquiétant, comme une belette qui se cachait pour observer.
Oui, c'est ça, c'est très beau cette image.
Voilà, c'est son image, parce que Giacometti lui avait dit, moi j'imagine que je suis un alligator ou un ours, ou ça m'arrive aussi d'imaginer que je suis un ours, mais la belette, c'était parce qu'il s'est caché, il était un petit gamin juif pendant la guerre, donc il a dû se cacher, donc c'est un rapport comme ça, comme chez Hitchcock, quand on voit un point de vue inquiétant, comme ça, on n'est pas tout à fait dans l'assemblée parmi les autres.
Dans Vertigo,
Voilà.
Oui, ou dans Carol Reed, Le Troisième Homme, on a ce travail sur le clair-obscur.
Ça, je ne connais pas tout en cinéma, je ne vois pas.
C'est un très beau film, le film de Carol Reed avec Orson Welles. Il a écrit les dialogues avec Orson Welles aussi.
Oui, ou
tous voit les... Vienne.
Oui, ou tous les travelling dans la soif voilà. du mal aussi.
Oui, ouais, exactement.
Donc le cinéma, vous nourrit un petit peu
beaucoup,
le cinéma.
Beaucoup.
On a du mal à imaginer parce que vous peignez des vies silencieuses, des natures mortes,
ouais,
beaucoup.
Mortes. Des objets quoi, des poissons.
Des objets, ouais.
Oui, oui, oui. En fait.
Mais en plongée, en contre-plongée, en. Comment vous les.
À plat, je peins à plat. Oui. Parce que j'aime bien pouvoir jeter de la peinture. Je tourne autour, j'ai un rapport un peu comme une danse, comme ça, autour du tableau. Parce que pour moi, pour rendre le tableau vivant, il faut le secouer. Je crois que c'est ce que disait Philippe Meuret à propos de Soutine. Il disait il secoue la peinture comme on secoue un poirier, quoi, pour la rendre vivant. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup bouger, à transpirer, comme en aïkido, que j'ai beaucoup pratiqué, en étant bon dernier près du radiateur. Mais j'ai quand même, en effet, plus de 15 ans, peut-être même presque 20 ans. Et en fait, j'aime bien quand ça bouge, comme ça, que le mouvement. Le cinéma, pourrait, par exemple, dernièrement, je pense que pour Sam, c'était un peu pareil, mais il avait ça aussi avec la musique. Des fois, il me disait, il ne me l'a pas dit pour le cinéma, mais pour la musique, il me disait, je pense que c'est pareil au fond pour le cinéma, c'est que des fois, vous voyez par exemple, ce que je veux développer juste rapidement, c'est que il y a donc l'épiphanie, l'expérience poétique avec le monde, la rencontre, mais il y a un moment donné où chez les peintres, qui, pour moi en tout cas, parce que ce n'est pas ma nature, et ce n'était pas non plus, je crois, celle de Sam, qui ne font que rendre leur impression. C'est-à-dire, c'est beaucoup, c'est énorme déjà, comme beaucoup de grands artistes l'ont fait. Et je crois qu'il y a une donnée en plus chez les très grands, comme Holland, bien sûr comme Sam, comme Giacometti, comme Morandi, il y a aussi une torsion. Et cette torsion, c'est pour moi ce que j'appelle là, c'est une mise en tension qui est propre à chacun, la perspective de chacun. D'ailleurs, c'est-à-dire, je crois que c'est encore une citation chez Leibniz, qui est le singulier, celui qui est singulier, il me disait soit singulier, pas pluriel. Il me disait soit singulier. Alors, pour moi, le singulier, c'est celui qui est déterminé. Enfin, pas pour moi, pour Leibniz.
La monade.
Il veut absolument être. Il est déterminé à être un point de vue. Un point de vue. Mais alors, qui dit un point de vue, dit donc une perspective, parce que et un peu comme la musique de Bob Dylan, ça va quelque part comme un train, vous voyez, lancé. Donc, je crois que le cinéma ou la musique, avec sa puissance dramatique, nous lance quelque part. Un exemple, j'ai revoyé le Polanski, la Chinatown, avec.
Ah oui.
Mais il y a quelque chose dans ce film. Regardez sur Arte, on voit Bertrand Tavernier en parler. Il en parle super bien. C'est exactement ce que je ressentais sans savoir mettre les mots dessus. Une puissance comme ça, noire, romantique. Dans le romantisme, c'est un souffle qu'il y a comme ça. Donc moi, je vais y chercher cette ambiance romantique pour la mettre dans mes simples poissons, pour la mettre dans une montagne, mais la mettre et en fait la développer, parce que je l'ai aussi, je la ressens aussi. Il y a quelque chose d'épique là-dedans, dans le fait de...
Oui, vous décrivez un rapport tout de même très, très physique à la peinture. Hein. Page 117, là, vous dites... j'aime beaucoup votre façon de décrire l'acte de peindre lorsque vous êtes sur le motif à la montagne. Bon, parce que ça me fait beaucoup penser à l'activité de marcheur, tout simplement, hein, voilà, qui doit regarder ses pieds pour pas dévisser, tout simplement, comme vous devez vérifier où vous posez les pieds. Voilà, vous travaillez aussi avec l'herbe, enfin, vous vous servez aussi de la matière.
De ce que je peux pour avancer.
Vous jouez avec les éléments, avec la pluie qui vous surprend. Et puis vous dites, nous les peintres, nous habitons notre ventre où sourdent les sensations et le bas de notre corps, nos pieds. Ça, c'est très beau, je trouve.
Le sol.
Le sol, et quand on est peintre, vous parliez du dessin, il y a la couleur. Et au cinéma, par l'image mouvante, la couleur, vous citiez Chinatown, très grand film, eh bien, elle s'exprime à travers le paysage, qui est, comme chez les romantiques, le reflet de l'âme. Homme libre, toujours tu chériras la mer, la mer est ton miroir, tu contemples ton âme. Et moi, je pense au très beau film avec Robert De Niro, de Martin Scorsese, dans les premiers Taxi Driver, où on voit cette ville prise dans le mouvement, qui est aussi le mouvement de la complexité de l'âme du Taxi Driver, joué par Robert De Niro, des méandres de son âme. Et ce rouge qui revient comme un leitmotiv, la couleur chez Kieslowski, le vert.
J'adore Kieslowski, Véronique.
La double vie de Véronique.
C'est splendide. Là, il y a un souffle aussi romantique, il y a une puissance. Voilà, Sam avait ça aussi. C'est-à-dire qu'on est dans le merveilleux magique, un peu quelque chose de labile comme ça. On ne sait pas si c'est le rêve, la réalité. On est dans un ailleurs, quoi. Donc on est entre rêve et réalité, entre un songe. Il y a une puissance. On est hors du temps un peu. Il y a quelque chose comme ça chez Kieslowski. On se dit, mais est-ce que c'est un homme de théâtre ou est-ce que c'est une incarnation de Dieu? Est-ce que c'est l'homme de sa vie ou est-ce que c'est...
Oui.
Et ça, c'est une compagnie, le cinéma aussi. Le peintre est souvent seul, donc oui. Il a besoin de prolonger son sentiment, parce que tout seul, c'est comme une simple cigarette. Elle est vite, l'inspiration est vite passée, donc il faut l'étirer comme on éteint une sauce anglaise, quoi. Comme la cuisine, quoi. Donc,
Mais je pense que là, vous avez vraiment dit un élément essentiel, Vincent, parce que le testament de la vie du cinéaste Krzysztof Kieslowski, c'est les trois couleurs.
Oui, oui.
Moi, j'aime beaucoup... bleu, avec Juliette Binoche.
L'accident.
Oui, et ce bleu qui est aussi le bleu des profondeurs de la mémoire. Et un peintre peint avec son ventre, il est dans ses pieds, donc il est profondément incarné. Mais il est aussi, je crois, un être d'une mémoire immémoriale, qui est là le côté presque... Voilà, sacré de la peinture. Comme le théâtre, la peinture a un fond sacré, puisque sans copier le réel, elle donne à voir le réel que l'œil ordinaire ne voit pas. Et c'est le credo du créateur, le chapitre 3 de Théorie de l'art moderne, Paul Klee, quand il dit que l'artiste rend le visible. Ce visible qui, en fait, et n'est pas vu.
Tout à fait.
Et quand vous parliez du discours de métaphysique de Leibniz, du point de vue, que la monade était un point de vue, la substance individuelle, puisque ce n'est pas encore la monade dans le discours de métaphysique, vous faisiez référence à cet article 8 et à la ville qui est vue par cet œil de chacun, de chaque singulier. Et je crois que cette singularité... Quand le peintre l'habite, il la donne à l'universel. Et au Moyen-Âge, en philosophie, il y a un maître du XIVe siècle qui s'appelle Duns Scott, Jean Duns Scott, qu'on appelait aussi le docteur subtil, qui dans le De Nominis rapporte toute la force de l'etchéité, c'est-à-dire ce singulier même qui construit la personne, c'est-à-dire au fond ce qui est à la fois propre à chacun en même temps qu'universel. Et je crois que c'est ce paradoxe que le peintre habite, un paradoxe qui le dessaisit de toute logique rationnelle, mais qui l'introduit à ce que Christine, tu appelais tout à l'heure, voilà, cet acte de résistance. Et je dirais, sous l'égide de Vincent, que pour moi, l'acte de résistance en peinture, c'est l'audace d'une beauté, l'audace, la beauté du désordre.
Ah, tout à fait, le désordre. Quand tu dis ça, tu rejoins, je crois, ce qu'à un moment, Deleuze, dans ses cours là, à Vincennes, il disait, le peintre contemporain, il doit affronter le chaos. Et pas pour y rester. Moi, au fond de moi, j'ai une harmonie très forte, très sourde, qui veut être là, mais elle veut pas être là à la force du poignet en s'asseyant par-dessus le chaos. Il faut le traverser, le coltiner. Quoi. Donc,
voilà. Et je crois que ce chaos-là, et je terminerai là-dessus, parce que vous avez parlé des vaches, j'aime beaucoup les vaches, et on le voit dans le très beau film d'Hubert Charuel, Petit paysan, où quand cet homme... est obligé de tuer son troupeau parce qu'il y a la vache folle. Il refuse d'obéir. Et il y a un combat avec les autorités. Et cet amour du paysan pour ses bêtes, c'est une façon de dire aussi que voilà, ce qui habite la beauté du monde dans le cœur de l'homme, c'est le courage de la défendre Et cette force militante du petit paysan, on peut le retrouver dans chaque ouvrier spécialisé.
C'est bien dit.
Et on va terminer peut-être, puisqu'il nous reste quelques minutes, par peut-être une question qui porterait sur la visite à l'atelier. Déjà, savoir s'il est possible de vous rendre visite à l'atelier.
Mais c'est ce que j'allais vous dire, parce que, même après l'émission, parce que je dois un peu y aller après. Là,
oui.
Mais j'aimerais bien vous voir, même avant Noël, là, la semaine prochaine, si vous voulez.
Vous entendez, les auditeurs, ils nous invitent.
J'aimerais noter vous deux, pour l'instant, parce qu'il faut que si c'est plus, il faudrait que je range plus. Et ça, le rangement, il faut que j'affronte le chaos aussi.
Et moi, j'avais des tas de questions parce que quand la première fois je suis venue à votre atelier, il y avait tout près de vos monographies, puis de vos carnets de croquis.
Monographie que Yves Michaud a fait, qui est le premier qu'il faut que je salue, premier à avoir lu ce texte sur Sam, premier à l'avoir aimé, et le premier qui a dit, alors que personne, Bébert, c'est bien, il y a une puissance, je veux faire un livre avec lui. Et moi, j'ai dit, je veux Yves. Et il vient de paraître un très beau livre qu'il a écrit chez Gallimard sur... un certain art contemporain qui parfois manque de ce que l'on vient de parler.
Et oui, on l'a trop peu cité, mais en effet, Yves Michaud a été aussi mon professeur à Paris 1. Il a beaucoup compté et merci à lui d'avoir dénoncé cet art très gazeux et atmosphérique et qui peut-être laisse moins de place aux épiques. à l'épopée de Vincent Bébert, mais ce qui m'avait beaucoup ému, c'était de voir une reproduction de la Marie-Madeleine de Frangelico au-dessus de voilà.
Vous n'êtes pas la seule personne. Elle parle justement à notre ami.
Je ne sais pas si elle y est toujours. Dans votre atelier.
Là où, mais... oui, je vois. Alors, mais je l'ai découpée dans un magazine comme ça. Et...
Elle est toujours là.
Oui, elle est toujours là. Mais lui, il disait qu'il fallait jamais reprendre en peinture. Sam a quelque chose de l'Angelico. Sam a quelque chose quand il représente Lilette, sa femme qui est comme ça. Il y a quelque chose comme ça de... premier jet, mais il le faisait avec son système de calque, des choses qui... je crois qu'il aimait ce qu'il disait, les peintres de tempérament, vous détruisez trop pour moi. Il dit, j'aime bien construire patiemment, parce que lui, il avait vécu tellement la guerre, la destruction que...
Et oui, donc voulait... vous acceptez l'assignation au peintre de tempérament, d'être identifié à un peintre de tempérament.
Mais au fond, ça se rejoint. Finalement, ce qu'on veut juste faire passer, c'est un univers, quoi.
Eh bien, il nous reste à vous remercier pour cet univers plein de tempéraments.
C'est moi, merci beaucoup.
Et on
merci
a...
Merci beaucoup. Merci Vincent.
Merci Christine.
Voilà, on vous remercie beaucoup les uns et les autres pour votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous le 7 janvier pour une rencontre qui sera dédiée... à un autre type de résistance avec André Markowitz, traducteur, et Daniil Bellinson, qui est défenseur des droits de l'homme, pour parler de leur livre, du livre d'André Markowitz, Et si l'Ukraine libérait la Russie.
Les frères Karamazov, j'ai tout cet été, tout beaucoup aimé.
Et merci André Markowitz, qu'on a hâte de retrouver aussi. Merci.
Vous écoutez Aligre FM 93.